Interview.
2 jours.
Bonjour le Diwa, je reçois aujourd'hui dans l'interview Bruno Monnier, bonjour.
Bonjour Jeanne.
Bonjour. Alors vous êtes géobiologue et vous êtes installé à Saillant depuis quelques années, vous êtes déjà venu en plus dans les locaux de RDIWA faire des émissions l'année dernière sur les différentes pollutions auxquelles nous sommes exposés dans nos foyers et même au travail.
Tout à fait.
Vous revenez aujourd'hui?
Oui.
Parce qu'il y a un stage à Espenel à partir du 20 juin, est-ce que vous nous en dites plus?
Oui, volontiers. Donc effectivement, j'organise des stages donc, sur ce thème de la géobiologie de temps en temps. Donc c'est pas vraiment de la formation proprement dite, c'est plus des stages d'initiation pour les gens que ça intéresse un peu de goûter un peu à cet univers de la géobiologie, de mieux comprendre et surtout de retoucher à ce qu'on appelle à la détection sensible, à faire appel à la sensibilité du corps. Et donc c'est plutôt des stages d'une journée, ce sont des stages d'une journée, donc il y a un niveau 1 et un niveau 2. Et donc ce 20 juin prochain, effectivement, il y a un stage de niveau 1. Ça se déroule, donc on est accueilli en partie à Espenel par l'association La Belle Vie, donc c'est au lieu dit le Roux Rebelle exactement. À Espenel, on y passe toute la matinée. Il y a une partie, une heure le matin, où on commence un peu par de la théorie. J'explique un petit peu qu'est-ce que c'est la détection sensible, à quoi ça sert, comment ça fonctionne plus ou moins. Et j'explique surtout sur ce sur quoi on va travailler après. Donc après, on a 3 heures de pratique directe. Donc je vais rentrer un peu en détail sur la pratique. Il y a un petit pique-nique partagé, donc moment convivial le midi. Et l'après-midi, j'emmène les gens sur un lieu dit sacré, enfin un lieu un peu différent que ce qu'on rencontre habituellement. Et là, en l'occurrence, c'est une chapelle qui est sur Saillant, donc on va aller voir cette chapelle. Et en l'occurrence, c'est la chapelle Saint-Christophe.
Alors, quelles sont les différentes méthodes d'apprentissage des techniques de détection? Comment apprendre à quelqu'un à détecter et comment la personne qui va travailler avec sa sensibilité à elle?
Alors en fait, on part du principe que ce sont des techniques qu'on appelle de radiesthésie. Hein, donc on fait appel à des outils. Donc en radiesthésie, il y a plein d'outils. Il y a le pendule, il y a la baguette de l'échelle, etc. Moi, j'utilise, et c'est ce qu'on utilise le plus souvent en géobiologie, c'est ce qu'on appelle les baguettes parallèles. Donc grosso modo, on tient une baguette dans chaque main. Ce sont des baguettes en L sur un axe libre. Et donc on les tient parallèlement, on avance à rechercher quelque chose. Imaginons qu'on recherche une source d'eau par exemple ou un passage d'eau souterrain. On marche, on arpente un terrain avec les baguettes parallèles et les baguettes vont se croiser pour donner réponse à ce que l'on est en train de chercher. Donc c'est ça un peu le principe de base. Mais l'outil principal de détection, c'est pas la baguette et c'est pas le pendule, c'est le corps humain, c'est le corps qui travaille. Et en fait les outils artificiels comme les baguettes ou le pendule ne sont là que pour rendre visible ce que le corps ressent. En fait, on a perdu au fil de nos évolutions, puis surtout de nos évolutions modernes, on a perdu le lien avec ces sensibilités très subtiles. Évidemment, on a des sensations habituelles de chaud, de froid, etc. Mais là, on parle de sensations subtiles. Et la plupart d'entre nous, pas tous, mais la plupart d'entre nous avons complètement effacé ces sensations. Enfin, c'est pas qu'elles n'existent pas, mais c'est qu'on s'en occupe pas, on ne sait plus les lire. Et donc les outils qu'on manipule là, la baguette ou le pendule, ne sont là que pour rendre visible ce que le corps ressent. Et donc petit à petit, après par l'apprentissage ou par l'exercice, on peut aussi du coup redévelopper cette lecture de ces sensations subtiles.
Parce qu'il y a de nombreux géobiologues qui sont magnétiseurs, médiums ou énergéticiens et qui ont donc une prédisposition au départ à une bonne communication avec sa sensibilité. Oui. Et je me pose la question, quelqu'un qui va venir participer à un de vos stages, qui n'est pas nécessairement sensible au départ ou qui n'entend pas forcément sa sensibilité, comment vous allez lui faire raccrocher avec cet aspect-là ? De lui-même.
Et bien justement, ces outils ont la faculté de fonctionner très très vite. En fait, il ne s'agit pas d'avoir une prédisposition ou une faculté particulière parce qu'on est tous des êtres sensibles en tant qu'être humain, ou on peut parler des êtres vivants en général, mais là on parle de nous. Donc on est tous des êtres sensibles Et donc, ça marche très vite pour tout le monde. Après, effectivement, suivant son degré de sensibilité, il y a des gens qui vont vraiment tout de suite rentrer dedans et ça va marcher très précisément tout de suite. D'autres, ça va être un petit peu flou, on va dire, parce que la sensibilité est un peu plus éloignée. Mais tout le monde peut le faire. À chaque fois que j'ai animé des stages, moi, j'encadre entre, on va dire, suivant l'occupation du stage, entre 10 et 14 personnes. La plupart de ces personnes n'ont jamais utilisé ni un pendule ni une baguette de leur vie. Et ça fonctionne très bien tout de suite. Il faut évidemment être guidé. Donc c'est là l'intérêt de suivre un stage, parce qu'il existe des ouvrages, on peut très bien se débrouiller un petit peu tout seul. Sauf que travailler tout seul ou apprendre tout seul comme ça sur ces aspects-là, on n'est pas corrigé. Donc il va peut-être se passer des choses, mais ce qu'on a détecté, c'est juste, c'est pas juste, là c'est compliqué. Et c'est là l'intérêt d'être accompagné par quelqu'un, justement, pour pouvoir vérifier un peu l'efficacité de la détection. Parce que, encore une fois, tout ça est très subtil. On a affaire qu'à de l'invisible. Et il y a beaucoup de choses qui se superposent. Il y a plein de phénomènes géologiques et d'autres phénomènes. Et faire la différence entre tous ces phénomènes n'est pas simple. Et c'est en ça que c'est intéressant de pouvoir être accompagné et guidé par quelqu'un d'expérimenté. Donc, c'est ce que je propose. Mais donc voilà, tout le monde y arrive. Il y a aussi, à un moment donné, simplement de se dire, bon, c'est le cas des gens qui viennent généralement, mais il faut se dire que c'est possible. Si quelqu'un essaye les baguettes en se disant de toute façon c'est de la bêtise, ça ne peut pas marcher,
il s'agit d'y croire.
Il y a quelque chose qui va faire que ça ne va pas fonctionner, parce qu'à un moment donné, il y a aussi une corrélation aussi entre la sensation que le corps ressent par rapport à une situation et la pensée et le mental aussi. Et donc si le mental dit ça ne peut pas marcher, je n'y crois pas, c'est impossible, ça va être très difficile d'apprendre, évidemment. Donc il faut juste se dire que c'est possible. Et les adultes sont obligés de se dire ça, alors que les enfants, si on fait ça avec les enfants ils ne vont pas se dire que c'est possible. On lui dit, prends les baguettes, tu les tiens comme ça, tu cherches de l'eau, t'avances et tu vas voir, quand tu vas trouver de l'eau, les baguettes vont se croiser. Et les enfants, n'ayant pas beaucoup d'a priori, surtout s'ils sont jeunes, entre 6 et 10 ans, Ça marche, ça a une efficacité absolue.
Vous en avez beaucoup des enfants dans vos stages ?
Non, là c'est que des stages d'adultes. Moi j'ai eu l'occasion d'expérimenter ça avec les enfants d'amis ou de famille, mais pas en stage. Bring the flavor like a good chef. They neighborhoods mess from following criminal footsteps. Until they run's done, they soul jumps up above us. Even though you shove much, I still show you love. But sometimes you gotta get back up. They say sometimes the pain just follows the act up. So don't need to fight with executions. Try to hide your restitution. Gotta find the best solution in your line of evolution. We bound to stumble, yeah we can fumble. Don't mean you'll crumble, cause we can get back up. Keep the light up, we gotta rise up. So we can wise up. Stay humble when the ground rumbles in times of struggle. La géobiologie à l'école. Alors je sais qu'il existe des écoles en France de géobiologie, oui. Notamment celle qui a été créée par Alain de Luzan. Oui.
Il a ensuite lui déposé une marque, un label qui s'appelle le label Géobios. Alors il a aussi créé un collège d'experts. Alors comment devient-on diplômé puis expert de la géobiologie ?
Bon, là, je pense que c'est... Donc moi, je participe à cet organisme. Après, c'est aussi par l'expérimentation, le travail de fond. Au fil des années, évidemment, tout ça, c'est presque un apprentissage continuel, on va dire, quoi. Donc plus on pratique cette activité depuis longtemps, et ben, mieux on en sait, mieux on pratique et plus on peut apporter aux autres aussi.
Est-ce que vous pensez qu'un jour la géobiologie sera enseignée à l'université ou dans des cours beaucoup plus accessibles que...
Alors, en faire une matière, en faire une matière unique comme ça ou une matière de recherche, pourquoi pas. Moi, j'ai des visées plus simples. J'aimerais bien que déjà, dans les formations à la construction, à l'éco-construction, les formations d'architectes, il y ait au moins des modules qui, sans vraiment forcément former les gens, mais au moins qu'il y ait une initiation ou un début de connaissance sur ces principes et ces connaissances globales aussi, pour que les architectes ou les constructeurs, les professionnels de la construction, petit à petit, prennent considération de ces influences du lieu, qui aujourd'hui n'ont pas cours du tout, en fait. Hein. On a dans les écoles d'architecture, je le sais parce que du coup, à un de mes stages de l'année dernière, il y a deux jeunes architectes qui sont venus. Et tout ce qu'on évoque en géobiologie, et notamment même, donc c'est, on va dire, ces connaissances subtiles, mais aussi sur les connaissances plus officielles de la pollution physique, telles que la radioactivité, les qualités de l'air, etc., les architectes n'ont quasiment aucune formation là-dessus. Et ça serait bien que l'habitat, ou donc le futur habitat, si on prend le cas des écoles, prenne un peu en charge ces connaissances-là, ouais, et les intègre.
Comment ça fonctionne à l'intérieur ? Vous avez fait, vous, peut-être une école de géobiologie ?
Oui, tout à fait.
Alors, comment ça fonctionne à l'intérieur ? C'est une formation en plusieurs paliers ? Est-ce qu'il y a un système d'évaluation ? Comment êtes-vous formé, en fait, à l'intérieur de ces écoles ?
Alors, oui, alors, comme ce sont des écoles privées et que ce sont des diplômes ou des formations non reconnues par l'État, elles sont assez variées, en fait. Donc, si on est intéressé par ce type de formation, il faut vraiment prendre le temps de savoir qu'est-ce qui est intégré dans ces formations, quels sont les intervenants extérieurs aussi. On peut s'appuyer un petit peu sur ces intervenants en les connaissant un petit peu. Moi, personnellement, donc, j'ai suivi une formation en Bretagne, puisque j'arrive de Bretagne initialement, près de Vannes. La formation s'appelle Santé, Énergie, Habitat. Et c'est pas la seule, mais c'est une formation qui se veut plutôt... avec un regard scientifique quand même. Donc elle aborde autant, on va dire à égalité de temps, elle aborde les phénomènes et les choses subtiles, donc liées à la géobiologie ancestrale, on va dire pure, hein, les phénomènes très subtils, et aussi les pollutions très modernes que sont le radon, enfin très modernes, qu'on connaît bien maintenant, que sont le radon, donc ce gaz radioactif, ou les champs électromagnétiques, ou les pollutions liées à la qualité de l'air. Donc on a une équivalence en fait en termes de temps d'apprentissage. Je sais qu'à l'époque, moi quand je l'ai suivi, c'était en 2009, c'était un cursus de 200 heures sur un an. Donc c'était étalé en fait pour qu'on puisse faire ça même en plus si on travaille. Donc généralement c'était un week-end ou deux week-ends toutes les six semaines, donc des week-ends complets. Et il me semble que dernièrement, ils ont fait ça un petit peu différemment. Donc, ce sont des modules. Donc, on peut suivre un module juste détection sensible. On peut suivre juste un module radon ou suivre un module champ électromagnétique ou suivre tous les modules si on veut la formation complète.
Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur l'histoire de la transmission de la géobiologie ? Parce que maintenant, il y a des écoles qui forment des élèves. Il y a des stages, des formations. Et c'est quelque chose qui se démocratise petit à petit ou en tout cas qui
tout doucement, mais
a
petit
tendance
à
se vulgariser un petit peu, les gens y ont déjà connaissance, puis accès pour pouvoir pratiquer eux-mêmes, etc. Mais alors je me posais la question, dans l'histoire globale de l'humanité, ça fait partie des domaines qui ont été persécutés par l'Inquisition, qui donc sont restés parfois du domaine du secret.
Oui.
Est-ce que vous en savez-vous plus sur la manière dont s'est transmise en fait, la géobiologie au fil des siècles ?
Effectivement, dans la géobiologie, donc... Tout ce qu'on connaît au jour d'aujourd'hui, on sait que à certaines époques, nos ancêtres, sur plusieurs civilisations, ont utilisé ce qu'on appelle les énergies de la Terre. Donc, il faut comprendre que à la surface du sol, en fonction des lieux, tous les lieux ne sont pas identiques. Il y a des lieux qui produisent, en fonction de ce qui se passe dessous, différentes énergies. Et l'humanité a utilisé ces énergies pour y bâtir, principalement c'est là que ça se retrouve, en tout cas historiquement, pour y bâtir les lieux de culte, les lieux sacrés. Ces lieux sacrés et ces lieux de culte ont un objectif particulier. La plupart, on pourrait dire, en tout cas en ce qui concerne les constructions chrétiennes, mais on peut parler aussi des constructions néolithiques, elles sont là pour aider l'éveil spirituel.
Et l'élévation.
Et l'élévation de l'humanité. Et donc plutôt que de construire un lieu... Enfin, de construire un bâtiment ou un endroit sur un lieu plombant, fatigant et qui nous épuise, on va plutôt profiter d'un lieu qui va plutôt nous porter justement énergétiquement, en fait, qui va aider à la spiritualité. C'est un peu ça le principe, hein, on va dire. Mais sauf que ces gens-là, à cette époque-là, ils ne parlaient pas de géobiologie. C'était directement
en
lien.
Très
sensitif. Et ils savaient que c'était là que ça devait se passer, qu'on mettait là un menhir, qu'on mettait là telle chose, etc. Parce qu'ils étaient directement en lien avec ces énergies subtiles. Hein. Encore une fois, nous, aujourd'hui, dans notre vie moderne, tout ça, on l'a perdu et il faut réapprendre ces choses-là. Donc, c'est une connaissance globale, hein, parce que ces préceptes, si je dirais, on les retrouve, quelles que soient les civilisations, sur les pyramides incas, les pyramides égyptiennes, les pyramides chinoises, parce qu'il y en a aussi, on est en Chine, etc. Et encore une fois, les premières constructions néolithiques, que sont les grandes constructions comme à Karnak, par exemple, en Bretagne. Ces connaissances ont été utilisées par le christianisme à un moment donné, donc aussi exactement comme tu dis, de façon un peu secrète, ça s'est transmis. Donc les grandes constructions aujourd'hui chrétiennes, les grandes cathédrales, etc., ont utilisé de façon optimale toutes ces énergies. Vraiment, on a atteint des sommets en termes de qualité de construction. Et voilà, ces constructions résonnent encore aujourd'hui, elles fonctionnent encore aujourd'hui parfaitement. Pourquoi, comment, là c'est un peu compliqué, c'est un peu le flou de l'histoire, j'avoue, je ne sais pas répondre précisément à ça. À un moment donné, ça a été complètement oublié, caché sans doute dans un coin du clergé, et ça a été complètement abandonné. Et là, ce qu'on sait aujourd'hui, nous, au jour d'aujourd'hui, ça renaît, grosso modo, depuis les années 50, ou différents clubs de radiesthésistes, notamment des Allemands, hein, qui ont remis ça au goût du jour, dont faisait partie le docteur Hartmann ou le docteur Curie, différents. Généralement, c'est beaucoup de médecins d'ailleurs qui se sont intéressés à ces problèmes aussi de rapport entre la santé et le lieu d'habitation, et qui ont découvert tous les réseaux aujourd'hui qu'on connaît en géobiologie, donc ce qu'on appelle le réseau Hartmann, le réseau Curie, le réseau Perret. Ça, c'est un médecin français par exemple, le docteur Perret, qui vient de Bagnoles de l'Orme, qui ont remis au goût du jour, enfin redécouvert, ces phénomènes énergétiques subtils. Donc voilà, on est en période de redécouverte depuis les années 50, donc c'est quand même récent, hein, ça a 50 ans on va dire, et ça a été appuyé en France aussi par un architecte qui s'appelle Georges Pratt, qui a beaucoup travaillé sur ces questions là et notamment sur les constructions sacrées, les chapelles, les églises aussi, etc. Et au jour d'aujourd'hui, plus récemment, un qui fait beaucoup avancer ces questions, c'est Stéphane Cardinaux, qui est un architecte suisse aussi. Et voilà, et toutes ces choses-là avancent petit à petit, de découverte en découverte, et puis aussi de confirmation de découverte, parce qu'il ne s'agit pas de découvrir quelque chose, il faut pouvoir confirmer, donc ça se fait dans le temps, petit à petit à petit. Là, voilà, il y a certaines choses pour lesquelles, en géobiologie, on est assez sûr, malgré que tout ce qu'on met en évidence en géobiologie, encore une fois sur ces plans subtils et ces plans liés aux énergies du sol, très peu de choses peuvent être encore vérifiées par des appareils de mesure, donc par une mesure objective, on va dire. Hein. Tout aujourd'hui se contrôle, entre guillemets, que par la radiesthésie.
Et au niveau de la recherche, est-ce que les chercheurs français en géobiologie rencontrent des difficultés à obtenir des bourses de recherche, ou est-ce que c'est un domaine qui est plutôt plaisamment financé par les divers acteurs de la recherche?
Ah non, pas du tout. La recherche qu'on parle à Stéphane Cardinaux ou Georges Pratt, c'est juste des gens passionnés. Au niveau scientifique, il y en a très très peu. Hein. Il y a même quasiment rien qui se passe, on va dire, au niveau scientifique. Hein. La seule... une autre démarche que je connais avec aussi des repères relativement scientifiques, c'est j'ai perdu le nom, mais enfin c'est un organisme en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, et qui s'est spécialisé sur la géobiologie agricole et notamment sur la géobiologie d'élevage, donc de travailler sur les élevages, parce que encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas les seuls êtres sensibles, évidemment. Les porcs, les vaches, les poulets, etc., subissent aussi ces influences. Ça pose des problèmes sur leur état de santé. Procentale, ça s'appelle, excusez-moi. Et eux travaillent aussi sur le résultat de correction géobiologique par le biais d'études vétérinaires. Et là, c'est pas du tout des financements publics, hein, c'est juste grâce aux adhérents, grâce aux stagiaires qui viennent et qui payent et tout ça, leur formation aussi. C'est de l'autofinancement en fait, hein, c'est juste comme ça que ça se passe. Et c'est là, il y a vraiment un scientifique russe qui s'appelle Russanov, c'est son nom. Et qui est géologue, lui, à la base, hein, c'est un géologue réputé. Et donc voilà, ils ont une démarche aussi de recherche scientifique avec des protocoles de répétition, etc., de reproduction en double aveugle, etc.
En fait, la géobiologie devrait presque être inscrite dans un domaine de la santé publique. Elle conduit au mieux-être. Et est-ce que vous, vous y voyez potentiellement une solution en fait, à long terme pour se réadapter vraiment au monde dans lequel on vit, à essayer de feinter un petit peu la surexposition à laquelle nous, on est confrontés tous les jours, chacun, même dans les endroits ruraux, même dans les endroits protégés, en fait, il y a très très peu d'endroits sauvages qui demeurent. Est-ce que ça, on peut considérer la géobiologie comme une solution en soi?
Alors, pour moi, évidemment. Évidemment, et surtout en plus quand on est dans la biovallée ici, et donc on a un public un peu sensible aussi à ces questions environnementales, de bonne nourriture, etc. Et la géobiologie, ça pose simplement la question du lieu, mais c'est quand même une question importante de savoir où est-ce qu'on habite, comment on habite dans cet endroit, qu'est-ce qui peut s'y passer. Et malgré que ce sont des influences, encore une fois, qui sont subtiles, elles n'en sont pas moins réelles, et qu'il y a un réel impact sur sa santé, et qu'effectivement, si on suit ces préceptes ou qu'on fait réaliser une étude géobiologie de son habitation, où l'idéal c'est avant construction ou avant achat pour savoir où est-ce qu'on va mettre les pièces, comment on va disposer les choses dans ce logement, eh bien on va éviter de s'épuiser, de se fatiguer et de ressentir de façon négative certains phénomènes. Et donc dans le temps, évidemment, on va aussi mieux se porter, évidemment. Il y a notamment en Suisse, les Suisses, encore une fois, là, cette vision de la géobiologie dont on parle à l'instant, elle est spécifique à la France, puisque dans d'autres pays, c'est un peu différent. Et, voilà, l'exemple de la Suisse est vraiment différent. En Suisse, la géobiologie est davantage reconnue. On fait appel à des géobiologues avant de construire des écoles ou même des administrations ou même tout un tas de bâtiments comme ça. Certaines mutuelles remboursent ou en totalité ou en partie une étude de géobiologie pour son habitation, puisqu'on comprend qu'on va être moins malade puisqu'on fait une étude de son habitat sur le plan sanitaire, et donc on sera moins malade, donc il y aura moins de dépenses de santé. Donc ça serait une évidence pour moi, en tout cas, que la géobiologie soit complètement intégrée, c'est ce que je disais tout à l'heure, dès l'instant où on parle d'habitat, elle devrait faire partie de ces considérations de l'habitat ou du lieu de vie. Donc ça peut être un lieu de travail aussi, évidemment.
Et au travers de la géobiologie, c'est une manière aussi donc de se reconnecter avec soi, avec son ressenti, ses énergies. Du coup, ça croise d'autres disciplines, oui, telles que l'ostéopathie, telles que le magnétisme, oui, les énergies. Il y en a tout un,
oui,
tas.
Oui.
Est-ce que il est possible d'envisager, un centre de formation globale en fait, ou alors dès les premières années d'école, les enfants de leur donner un temps qui soit dédié en fait à l'écoute de ces énergies, histoire de se reconnecter le plus tôt possible.
Ça serait formidable. Ça serait formidable. Je ne sais pas si l'éducation nationale elle est prête à ça, mais effectivement, ça serait formidable. Et puis cette idée un peu de connaissance globale et de soi et de l'environnement avec des disciplines partagé du coup sur un même centre de formation, ça serait aussi très très chouette. C'est un petit peu, je crois, si j'ai bien compris la chose, c'est un petit peu ce qu'initie comment ça s'appelle, j'ai perdu le nom à nouveau aussi, qui est en projet dans la région, c'est l'Université de l'Avenir, voilà. Je cherche ça, où ils essayent d'avoir une vision un peu holistique aussi sur ces connaissances, donc agricoles, environnementales, l'eau, enfin, etc. Et la géobiologie aurait tout à fait sa place dans cette vision-là. Et aussi, comme tu dis très justement, aussi quand ce que j'essaie aussi d'apporter, ce qu'apporte la géobiologie quand on s'y essaye, pas forcément on s'y forme, mais quand on s'y essaye, ça change aussi notre regard sur l'environnement, puisque on va finir par voir entre guillemets, on les voit pas directement, mais on se rend compte qu'il y a d'autres choses qui se passent, qui sont complètement invisibles, et que avant d'avoir fait la géobiologie, on n'en a pas connaissance. Après en avoir fait un petit peu, on en a connaissance. Et donc notre regard sur le monde change, puisqu'on se dit qu'il existe dans notre monde des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont pourtant là. Indoctrination has blocked the nation from the truth. Stop hating, it's not too late to choose greatness. You got blues, so did the ancient. Be patient, it's hard.
hard being the new generation. Be rude, undo the rules, use innovation. Things change since nuclear proliferation. Picking it up and living in love, there's really enough vibration. So giving a fuck when living is tough is more than a proclamation. And helping a brother who's stuck in the rough is all that we've got. The battle is God and Satan. We've gotta be strong through illness, inoculation, perspiration, meditation, and the hesitation. It's a revelation for slavery, reparations. No laying blame, playing games. This is education. Generations change, it's just fate's respiration.
Est-ce qu'il y a plusieurs écoles de géobiologie autour du monde? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a plusieurs écoles de pensée, plusieurs manières de l'aborder, ou est-ce que globalement tous les géobiologues se retrouvent sur la transmission?
Alors, j'avoue que j'ai peu de connaissances sur la géobiologie internationale. Là, voilà, j'ai quelques notions un peu sur ce qui se passe en Europe, entre l'Allemagne, la France, voilà, la Suisse. En Espagne, je ne sais pas du tout quel est le niveau de connaissance sur la géobiologie. Aux États-Unis, très, très peu aussi. Après, je sais que en Asie, il y a une connaissance qui est proche, qui n'est pas la même du tout, mais qui est proche, qui est le feng shui, où il y a des choses très, très en lien entre le feng shui et la géobiologie, malgré que ce soit des angles complètement différents, liés à la culture, puisqu'on va dire que la géobiologie, elle a plutôt une culture occidentale, et que le feng shui, c'est vraiment lié à la culture asiatique, mais il y a des choses qui se rapprochent. Après, voilà, sur les connaissances réellement, qu'est-ce que connaissent les géobiologues aux États-Unis ou qu'est-ce que connaissent les géobiologues en Afrique? Je ne sais même pas s'il y en a en Afrique. Enfin, là, j'ai vraiment...
Certainement, les animistes, ils sont quand même très reliés.
Oui, alors on va, je pense que dans toutes les peuplades, on va trouver des choses qui vont faire référence à des connaissances que nous, on a et qu'on appelle en géobiologie, mais peut-être eux appellent ça autrement.
Alors, il faudrait lancer l'idée d'un congrès international de géobiologie, peut-être.
Ça serait une bonne idée.
Qui se tiendrait à 10, pourquoi pas.
ça serait une bonne idée.
Bon, ouais. J'ai une dernière question, après j'arrête de te torturer. Quels sont les outils de transmission et de pédagogie que toi, tu mets en pratique au sein de tes stages et comment, en fait, tu abordes cette question-là, quoi, de la transmission?
Alors, justement, dans mes stages, moi, ce que j'essaye de faire, c'est ce que j'ai expliqué là tout à l'heure dans le descriptif, c'est qu'il y a une heure de théorie. Hein, où j'explique qu'est-ce que c'est l'outil, comment on manipule, voilà, un petit peu l'histoire, ce qu'on vient de faire là tout de suite. Donc ça dure une heure. La transmission, elle se fait par la pratique. On y va, on est sur le terrain, on teste. Je fais chercher de l'eau. Alors voilà sur quoi je travaille. Je fais travailler sur ce stage niveau 1, pour que ça soit clair. Je fais travailler sur ce qu'on appelle le biochamp. C'est la première chose, on va démarrer par ça. Le biochamp, c'est pas très facile d'expliquer ça à la radio comme ça, mais c'est... un écho vibratoire de notre énergie vitale. Voilà. On a notre corps physique qui s'arrête à l'épiderme, à la peau, hein, c'est voilà, notre partie physique réelle. on a une première couche énergétique qui est, on peut l'appeler l'aura, hein, voilà, c'est ce qu'on appelle l'aura généralement, qui est une couche donc énergétique qui représente notre énergie vibratoire, en fait, ce qui nous fait vivre, bouger, en fait, hein, ça fait un écho, et qui se situe entre 60 et 80 cm de notre corps en moyenne, hein, c'est pour donner une idée. Et puis, donc, cette aura, elle produit des harmoniques, comme en musique. Et donc, le biochamp, c'est la première harmonique, c'est une couche qui est assez dense, en fait. C'est pour ça qu'on travaille avec celle-là, parce qu'elle est assez facile à détecter. Et elle va se situer en moyenne entre 2 et 4 mètres pour un individu en bonne santé, à peu près. Et donc cette couche, on travaille avec parce qu'elle nous permet de savoir, justement, sans qu'on ait notre senti, ça permet de savoir où est-ce qu'on en est, puisqu'elle va bouger cette couche, hein, cette bulle, il faut l'imaginer comme une bulle tout autour de nous. Elle va se contracter si on est en mauvaise santé, elle va se contracter s'il y a quelque chose qui ne nous va pas bien, qui nous fatigue, donc suivant le lieu, ou suivant ce qu'on a mangé, ou suivant ce qu'on fume. Et elle va se dilater à l'opposé, évidemment, si on est dans une belle énergie ou si on est dans un lieu qui nous porte. Et donc, on peut voir cette évolution du biochamp et donc tester, évidemment, la fouette 2. On fait un test, on fait une mesure étalon sur un endroit neutre, ça nous donne une mesure étalon de ce biochamp. Et après, on met cette personne sur une veine d'eau, on met cette personne sur tel endroit et on voit si ce biochamp il se rétracte ou s'il se dilate. Et ça nous donne une idée si cet endroit est plutôt bénéfique pour cette personne ou si c'est plutôt négatif pour cette personne. Donc ça, c'est la première chose, mesure du biochamp. Ensuite, on va travailler sur un des réseaux les plus connus. C'est ce qui intéresse les gens par rapport à l'habitat, ce qu'on appelle le réseau Hartmann. Donc, c'est un des réseaux géobiologiques. Donc, on va le détecter dans un jardin. Donc, c'est cette première partie en matinée. Et ensuite, pour rendre les choses un peu concrètes aussi, on fait de la recherche d'eau. Et j'ai la chance, là, sur cet endroit à Roux-Rebelle, d'avoir un endroit où on peut détecter de l'eau. Et on va voir après où l'eau ressort, ce qui permet d'avoir une réalisation concrète de la détection qu'on a fait en amont. Voilà. Ça, c'est la partie matinée. Et la partie après-midi, on va donc sur cette chapelle. Et là, on va un peu voir pourquoi cette chapelle a été plantée là, perdue dans une vallée, à quelques kilomètres de Saillant, où il n'y a rien autour. Pourquoi ils ne l'ont pas mis près du village? Enfin, pourquoi ils ne l'ont pas mis à un endroit plus accessible? Elle est perdue là-bas, perchée. Et on va essayer de comprendre pourquoi elle est là-bas et pas à un autre endroit. Il y a plusieurs phénomènes, donc là je ne vais pas rentrer dans les détails, il faut laisser un peu de mystère.
Bien sûr.
On va définir quelques éléments qui vont nous permettre de comprendre que cet endroit il est particulier, que ce n'est pas un autre endroit que ça se passe.
D'accord.
Voilà.
Tu parlais de pratique, je te tutoie là, ça
oui.
sort tout seul.
C'est pas grave, ça va très bien.
Tu parlais de pratique, alors comment la personne, une fois qu'elle rentre chez elle et qu'elle a fini son stage, eh bien, elle va pratiquer des exercices de géobiologie pour garder ce truc, quoi. Comme oui. un musicien qui va approfondir sa pratique en jouant de son instrument,
oui.
tu parlais de musique et d'harmonique
oui.
Tout à l'heure, chaque jour, etc., pour l'entendre de mieux en mieux et donc oui. le maîtriser et pouvoir, etc.
Alors, il y a tout un tas de... Alors déjà, bon, c'est pour ça que je fais un stage...
Est-ce que ça se pratique déjà, la géobiologie?
Oui, bien sûr, ça peut se pratiquer. Dès l'instant où on a compris un peu le système, alors après, faut aimer ça, il faut passer du temps, aller voir un lieu, faire le tour. Quand on fait déjà un petit tour d'une chapelle pour savoir un peu ce qu'il y a dessus, c'est au moins 3-4 heures à passer sur l'endroit quand même. Donc voilà, il faut se dire, il faut aimer ça, parce qu'il ne faut pas se forcer non plus, il hein, faut que ça plaise. Je fais ce stage niveau 2 justement pour un peu confirmer, aller un petit peu plus loin, redonner un peu de précision aussi à la détection, parce qu'au démarrage c'est ça qui est dur, c'est la précision, il y a beaucoup de flou, on détecte là mais en fait c'est là que ça se passe, enfin il faut arriver à un peu de précision. Après, ce qui est vraiment pour vouloir un petit peu pratiquer après, le mieux c'est d'être deux pour toujours un peu confronter ses recherches, c'est l'idéal de pouvoir trouver un compagnon avec qui on fait ça. Et sinon, j'essaye de donner des petites astuces pour pouvoir faire quelques petites choses quand même un peu tout seul, notamment sur la recherche d'eau, c'est là où ça va être le plus facile de pouvoir faire quelques petites expériences tout seul, avec un puits d'un voisin, avec une source qu'on trouve dans la montagne, et faire le tour de la source ou aller un petit peu en amont de la source, essayer de détecter par où elle passe précisément, essayer de trouver sa profondeur, et puis du coup, en la voyant un peu en dessous, on peut concrétiser encore une fois sa détection, ou avec un puits, c'est pareil, on peut ouvrir le puits, voir à quelle profondeur où se trouve l'eau pour confronter encore une fois ce qu'on a pu relever en détection. Donc voilà, il y a quelques petites pistes qui permettent de quand même travailler un petit peu tout seul, sachant que quand même l'idéal pour pouvoir un peu avancer, c'est d'être au moins deux, voire trois, si on peut trouver des amis intéressés aussi par ça.
La géobiologie rapproche donc.
C'est ça, tout à fait.
Elle crée du lien. Bon, eh bien, le Diwa, tu sais où aller le 20 juin. Si tu veux mieux comprendre ton habitat et ton territoire, rendez-vous au stage à Espenel, donc le
c'est
20
ça.
juin, stage niveau 1 de géobiologie.
Voilà, je veux préciser qu'il reste 6 places, parce que j'accueille jusqu'à 12 personnes, hein, parce qu'au-delà, c'est un peu compliqué à gérer. Donc voilà, il reste aujourd'hui encore 6 places de disponibles.
Combien ça coûte ?
Ça coûte 25 euros la journée. Donc j'ai fait un tarif, je ne fais pas ça pour gagner de l'argent. Je ne gagne pas d'argent avec ces journées, du tout même. Mais c'est vraiment du partage et de la transmission. Et voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez soit aller directement sur mon site internet. C'est assez simple à trouver, vous pouvez taper géobiologue Drôme, vous allez me trouver, Bruno Monnier. Sinon, l'adresse du site exact, c'est www.ma-maisonscène.com. Et sinon, mon adresse mail aussi directement, vous pouvez m'écrire à bm, comme Bruno Monnier, habitat, donc tout attaché, bmhabitat@orange.fr.
Eh bien, merci Bruno Monnier d'être venu aujourd'hui dans l'interview.
Merci Jeanne, merci beaucoup.
Avec plaisir. Auditeurs du Diwa, vous pourrez retrouver cette interview sur le site internet de la radio, www.rdiwa.fr, et puis sur les ondes 107.9.
C'est ça.
Merci. Interview. 1, terre.
Hey, the bird.
L'interview du jour.